Ce matin, le message s'intitule « L'heure du choix ». Il y a une heure pour choisir, une heure pour prendre des décisions. Et quelquefois, nos petites décisions mènent à des grandes conséquences. Et j'aimerais qu'on regarde dans la parole de Dieu ce qui est dit sur, justement, les petites décisions qui ont des effets importants. Et j'aimerais prendre un passage dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 6, versets 7 à 9. Donc dans le Nouveau Testament, épître de Paul aux Galates, chapitre 6, les versets 7 à 9. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Dans le contexte de cette lettre aux Galates, en fait, il parle d'argent. Il dit « Si vous semez vos biens matériels pour les choses de la chair, c'est-à-dire pour votre égoïsme, pour votre plaisir personnel, vous allez moissonner de la corruption. Mais si vous semez pour les choses éternelles, les choses de Dieu, vous obtiendrez des choses éternelles. » Mais j'aimerais élargir ce passage, ce thème de moissonner et de semer. Ce que l'on sème obtient une moisson. C'est un grand principe de la nature et ce que l'on sème, c'est ce qu'on va moissonner. Si vous semez du blé, vous n'allez pas récolter du maïs. Bon, c'est absolument évident pour nous tous. Mais sachez que c'est un principe que Dieu a voulu lorsqu'il a créé le monde. C'est que la graine donne la plante qui correspond. Et c'est vrai dans le domaine moral et spirituel. Si je sème des choses bonnes, je vais récolter des choses bonnes. Si je sème des choses mauvaises, je vais récolter des choses mauvaises. Et nous, les hommes, parfois, nous avons cette folie de penser qu'on peut semer n'importe quoi et récolter des bonnes choses. Alors, on sème n'importe quoi, on ne fait pas attention, et puis après, on dit « Oh, mais regarde ce qui m'arrive !» Mais ce qui m'arrive, quelque part, c'est ce que j'ai semé. Un exemple de l'actualité, c'est la jeunesse et notamment les adolescents de notre pays qui sont de plus en plus perdus, égarés dans leur comportement, dans leur vie. Il y en a beaucoup pour qui ça va bien, mais il y en a un certain nombre qui n'ont absolument plus aucun repère. La vie, la mort, le bien, le mal, la justice, la corruption, n'ont plus aucune idée de ce que ça représente. Et on se dit, mais c'est terrible notre jeunesse, qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne va pas tous les mettre en prison quand même. Ce n'est pas vraiment la solution. Mais en fait, on est en train de moissonner une génération. Et la génération d'avant a semé, les parents ont semé, les grands-parents ont semé. Et un jour, on récolte. Et c'est terrible de récolter des enfants perdus. Je pense que c'est ce qui brise le cœur le plus lorsqu'on a un cœur, c'est de voir son enfant s'égarer. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui sont revenues à la foi quand ils ont eu des enfants. Il y a même ce verset de Timothée qui dit qu'une femme pourra être sauvée en devenant mère. Il ne voulait pas dire sauvée du jugement dernier, mais aura sa vie rétablie, on pourrait dire, assainie en devenant mère. Pourquoi ? Parce qu'en ayant un enfant, c'est là qu'on réalise notre responsabilité d'homme, d'humain. On se dit, mais cet enfant, j'ai une part là. J'ai une part. Comment est-ce qu'il va tourner ? Et s'il tourne mal, bien, quelque part, j'aurai ma responsabilité. On moissonne ce que l'on sème. Dans le prophète Osée, il est dit, ce proverbe qu'on connaît bien, on ne sait pas toujours que c'est dans la Bible, « Celui qui sème le vent récolte la tempête. » C'est dans la Bible, ça. Quand on sème le vent, on récolte la tempête. Ici, il dit, « Si vous semez pour la chair, vous moissonnerez de la corruption. » Semer, c'est une image, hein, là, pour nous, de ce que je fais, de ce que je pense, de ce que je dis. Mes actions ont des conséquences. Mes choix ont des conséquences. Mes paroles ont des conséquences. Mes pensées ont des conséquences. Prenons les pensées. Si vous laissez aller votre pensée à des choses mauvaises, qu'est-ce qui va en sortir? Ça va sortir dans votre bouche d'abord et ensuite dans votre comportement. Si dans votre pensée, vous cultivez la haine, le ressentiment, vous le cultivez bien et au fond de vous, vous dites « Ah, j'aime pas ça, j'aime pas celui-là, j'aime pas celle-là. » Et puis « Oh, si je pouvais l'étrangler, l'assassiner, le torturer. » Et vous laissez ces pensées mijoter dans votre esprit. Qu'est-ce qui va se passer? Le moment où il y en aura l'occasion, vous allez devenir violent. Et pas forcément avec la personne à qui vous avez pensé, avec la première qui passe. Ça peut être vos enfants, votre conjoint, votre voisin, l'automobiliste à côté, même s'il le mérite. Mes paroles ont un effet. On le dit particulièrement pour les enfants. Quand vous répétez à votre enfant qu'il est nul, forcément, comme ça vient de ses parents, il le croit. Et il finit par se dire, de toute façon, je suis nul. Quand vous dites à quelqu'un, toi, tu es comme ça, hein, vous définissez la personne, toi, tu es comme ça. C'est violent, en fait. On ne se rend pas compte comme les paroles peuvent être violentes. Il n'y a pas d'arme, vous ne frappez pas, mais vous frappez avec des mots, et en fait, vous frappez l'âme de la personne. Et ça peut avoir des conséquences sur la vie de cette personne. La Bible dit « Il est tel que sont les pensées de son âme. » Et nos pensées amènent des comportements. On dit bien hein, qu'une habitude devient un caractère. Ça, ce n'est pas dans la Bible, mais c'est quand même, il y a des exemples bibliques. C'est-à-dire, lorsque vous laissez entrer une habitude dans votre vie, elle finit par s'installer complètement et devenir une partie de votre caractère. Ne croyez pas que nous soyons définis à la naissance, voilà, toi, tu es comme ci, comme ça, comme ça. Non, il y a un certain nombre d'éléments que nous forgeons à travers nos expériences, mais aussi à travers notre mentalité, nos choix. Et puis, semer, c'est aussi le temps que j'investis. Si je passe du temps dans une certaine activité, je vais moissonner des fruits de cette activité. Si je passe du temps dans les jeux vidéo, je vais être fort en jeux vidéo. Ce n'est pas forcément très utile dans la vie, mais on va moissonner ce qu'on a semé. Si je passe du temps dans les livres, ma réflexion va s'étoffer. Encore faut-il que je choisisse bien les livres que je lis aussi. Mais la lecture est quelque chose qui disparaît, c'est catastrophique. Hein? Alors que c'est ce qui permet à l'homme de réfléchir, d'avoir une autonomie de pensée. Les premiers chrétiens, et les chrétiens, les protestants aussi hein, de France, apprenaient à lire dans la Bible. Il y avait un taux d'analphabétisation important en France au XVIe siècle. Peu de gens dans les campagnes savaient lire. Eh bien, les protestants se faisaient un devoir d'apprendre à leurs enfants à lire dans la Bible. Et quand les enfants savaient lire, ils pouvaient lire d'autres livres, ils pouvaient se cultiver, ils pouvaient réfléchir. Ils n'étaient plus hein, des esclaves de la pensée dominante. Qu'est-ce que je sème? Alors là, on peut chacun s'interroger. Voilà, de quoi est fait mon temps? De quoi est fait ma vie? De quoi sont faites mes pensées? Moi, je ne sais pas, je connais les miennes et je sais ce que ça donne hein, comme moisson à la fin. Et ce qui est frappant, c'est que, et ce qui est déstabilisant pour nous, c'est qu'on peut semer des petites graines et ça va donner des grandes récoltes. Regardez l'exemple d'Adam et Ève. Adam et Ève étaient dans ce jardin, ils étaient en communion avec leur créateur, tout allait merveilleusement, ils n'avaient plus qu'à cueillir les fruits qui poussaient là, ils passaient du temps avec Dieu, il y avait une communion douce et paisible. En plus, ils étaient complémentaires l'un et l'autre. Et puis un jour, le serpent, Satan, est venu dans le jardin et il a dit à la femme, Mais pourquoi tu ne manges pas de cet arbre-là, de la connaissance du bien et du mal? Et la femme a dit, mais Dieu nous a interdit d'en manger, sinon on peut mourir. Et Satan lui a dit, tu ne mourras pas. Vas-y. Et comme la femme a vu qu'il était beau à bon à manger, hein, qu'il était beau, elle a pris de ce fruit. Franchement, cueillir un fruit, ce n'est pas forcément grave, hein. Ce n'est pas parce qu'on cueille un fruit que le monde va s'écrouler. Et pourtant, là, ce n'était pas n'importe qui, c'était les premiers êtres humains que Dieu avait créés. Et en prenant ce fruit, ils n'ont pas juste cueilli un fruit. Ils ont désobéi à un ordre express de leur Créateur. Ils ont trahi la communion qu'ils avaient avec le Créateur. Il y a vraiment une idée de trahison là. Ils ont préféré croire le mensonge du serpent que de croire à l'avertissement de Dieu. Et le fait de manger ce fruit, ça avait des conséquences terribles. Dans l'Épître aux Romains, hein, il est dit que la race humaine est devenue pécheresse, est entrée dans la mort et le péché après ce geste. Heureusement que le Seigneur a envoyé Jésus-Christ, le deuxième Adam, pour nous sortir, hein, de ce cercle vicieux. Mais vous avez vu ce petit choix prendre un fruit? Oh, en plus, il a l'air bon, ça va être bien. Puis ça va nous ouvrir les yeux, paraît-il. On va connaître le bien et le mal. Ah oui, ça, pour ça, ils ont connu le bien et le mal. Leurs fils, hein, se sont entretués. Caïn a assassiné Abel peu de temps après. Et la malédiction est venue sur la terre, des catastrophes après catastrophes. Pourquoi nos enfants naissent-ils avec une nature un peu rebelle? Pourquoi sommes-nous rebelles dès l'enfance? Parce que nous sommes descendants de ce péché. Dieu ne nous jugera pas, hein, parce que nous sommes descendants d'Adam, du péché, mais il nous jugera sur nos choix aussi. Mais un petit choix peut avoir des terribles conséquences. C'est un petit peu comme si vous arrivez dans votre vie, vous êtes en voiture et vous arrivez à une intersection. Vous avez là ou là. Bon. Alors, je vais aller là. Alors, vous allez là. Et puis après, il y a une autre intersection, là ou là. Alors, et puis, ça devient très compliqué, la vie, hein. Vous avez des intersections. S'il fallait revenir en arrière, je ne sais plus si j'ai tourné à droite ou à gauche, là. Sauf qu'au bout de plusieurs heures de route, vous êtes très loin, très loin, très loin. Et si vous vous êtes trompé, c'est très dur de revenir. Il y a sur le périphérique de Paris une sortie qui mène à Orly. Et quand j'étais nouveau conducteur, je me suis fait avoir, je ne sais pas combien de fois, au lieu de sortir Porte d'Orléans, je prenais cette sortie. Et là, vous êtes bloqué quasiment jusqu'à Rungis. Il faut rouler jusqu'à Rungis. Quand on connaît le coup et quand on ne connaît pas le coup, on va jusqu'à Orly. Sans pouvoir sortir. La première fois, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais on ne va pas aller à Lyon quand même. Parce que je me suis trompé d'intersection. Mais dans la vie, il y a des choses comme ça. Vous prenez la mauvaise intersection et vous arrivez dans le décor. C'est pour ça qu'on a besoin de toute la sagesse de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin de faire nos choix, nos décisions avec Dieu. C'est pour ça qu'il faut semer pour la vie éternelle, pas pour la chair. Quelle sorte d'intersection peut-on rencontrer dans la vie? Et là, j'aimerais parler un peu aux jeunes. Une des plus grandes qui a un impact le plus fort, c'est le mariage. Le conjoint que vous choisissez va avoir une importance extrême dans votre vie. Même si aujourd'hui les gens divorcent comme si on va au supermarché, le divorce laisse des traces, surtout s'il y a des enfants. Ça, c'est encore une chose qu'on moissonne, hein. Les générations de divorcés ont produit des enfants qui souffrent, qui sont fragiles, qui sont déchirés, hein, et qui ont du mal dans la vie à avoir des relations humaines stable parce que eux-mêmes ont subi des choses dures à la maison. C'est pour ça que choisir son conjoint, c'est essentiel. Et on ne choisit pas simplement parce qu'on a le coup de foudre. Ça, c'est ce qu'on voit dans les films, hein. Oh là là, la foudre m'est tombée sur la tête, ça y est, voilà, la semaine prochaine, on se marie. Combien on a vu, hein, vous avez peut-être vu aussi des beaux mariages en blanc. dans des cathédrales avec 300 personnes, des magnifiques mariages en robe blanche, et puis on vous apprenait qu'un an après, c'est déjà terminé. C'est pas ça le mariage, c'est pas la cérémonie à la cathédrale. Ça se passe bien avant, dans le choix du conjoint, et aussi dans l'attitude que je veux avoir dans le mariage. Est-ce que je me marie pour me satisfaire, pour ma chair? Ou est-ce que je me marie pour donner de l'amour à l'autre? Ça change tout. Si vous vous mariez pour vous-même, votre conjoint n'arrivera jamais à vous satisfaire pleinement. Vous serez déçu. Et le jour où vous êtes déçu, vous dites « Oh ben alors c'est ça, le mariage. Oh ben, je croyais que vraiment elle était bien quand on avait le coup de foudre. Oh, on ne pouvait pas se passer de l'un de l'autre. On ne pouvait pas rester une seconde. J'étais transporté. Et puis là, ça fait un an qu'on est mariés. Ça fait 3 ans qu'on est mariés. Et puis tout est tombé. Il n'y a plus rien. Bon, ben on va arrêter. Hein, on va divorcer. » Ce n'est pas ça le mariage que Dieu a voulu. Le mariage, c'est on se donne à l'autre. Et on dit, voilà, cette personne, je veux l'aimer. Ce n'est pas je suis amoureux seulement, mais je veux l'aimer. Je veux lui donner ma vie. On dit encore aujourd'hui, c'est presque anachronique, quand vous avez les vœux dans le mariage, es-tu prêt à l'aimer jusqu'à la fin de tes jours, dans le malheur comme le bonheur, etc. Si on sondait ceux qui disent ça dans leurs vœux, hein, on serait surpris. J'ai aucune envie de rester avec toi jusqu'à la fin de mes jours. Et puis s'il y a un problème, moi je prends la porte de derrière, hein. Tu tombes malade, gravement malade, oh là là, je m'en vais. Et c'est là que le chrétien doit faire le bon choix. D'abord, il doit prendre son temps, il doit demander à Dieu, il doit demander conseil, mais il doit surtout sonder son propre cœur. Est-ce que je veux aimer cette personne? Est-ce que je suis prêt à m'engager jusqu'à la fin de mes jours? Est-ce que je m'engage dans ce mariage? Et un mariage qui commence comme ça, finit bien, parce qu'on a bien semé au départ. Tout se passe au début. Hein. On peut rattraper des fois, ça arrive, mais c'est quand même difficile de rattraper ce qui est mal semé. Une autre grande décision, ça peut être de servir Dieu pour un chrétien. Est-ce que je vais avoir un travail séculier ou est-ce que je vais me mettre au service de Dieu? C'est une grande décision parce que ça va changer complètement votre vie, évidemment. Au lieu d'avoir un travail, un salaire qui vous tombe tous les mois, si vous n'êtes pas au chômage, servir Dieu, ça veut dire vous comptez sur Dieu. Vous vivez par la foi, vous dépendez des autres financièrement. Hein. Vous dépendez de l'église dans laquelle vous allez travailler ou de la mission avec laquelle vous travaillez. Et quelquefois, c'est dur de dire, mais je ne peux pas gagner mon salaire, dire, voilà, moi j'ai mérité mon salaire. Oui, un serviteur de Dieu, il mérite son salaire aussi, hein, c'est la Bible qui le dit. Mais ce n'est pas pareil. Ce n'est pas juste un salaire à l'heure, tu as fait combien d'heures, voilà, j'ai prêché 4 heures, j'ai travaillé 5 heures, non. Un pasteur, c'est comme un médecin, hein, il est là tout le temps, on peut l'appeler dans la nuit. Servir Dieu, c'est une grande décision et beaucoup ont peur et je les comprends parce que moi, j'avais très peur de le faire. Il faut que ce soit vraiment Dieu qui vous appelle. On ne s'improvise pas serviteur de Dieu en disant, voilà, je pense que maintenant j'ai les compétences pour devenir un grand pasteur, un grand évangéliste, un grand prédicateur, un grand missionnaire. Non, au contraire, si vous pensez ça, revenez vers Dieu pour qu'il vous apprenne ce que c'est le service, l'humilité. C'est Dieu qui appelle. Jésus a dit à ses disciples, hein, ses 12 apôtres, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, moi je vous ai choisi. D'ailleurs, on se demande comment il les a choisis. Quand on pense que Jésus a choisi Judas, bon, c'est quand même particulier, parce que la Bible avait dit qu'il fallait qu'il soit trahi par un proche. Mais quelque part, on peut dire que Jésus a laissé sa chance à Judas. Judas n'était pas le traître absolu, là, le monstre, hein, mais c'est quelqu'un qui un jour a fait un choix où il pouvait suivre Jésus jusqu'au bout, jusqu'à la mort, hein, probablement, parce que tous les apôtres quasiment sont morts, sauf Jean, martyr, je veux dire. Ou suivre Jésus, ou gagner de l'argent sur le dos de Jésus. Et Judas, il s'est dit, « Ouh, il y a un bon coup à tirer là. Hein. On peut gagner de l'argent parce que Jésus, il va sans doute devenir connu avec les miracles qu'il fait. Il va devenir riche, c'est pas possible. Hein. Remarquez, il guérit tous les gens, il fait des résurrections, mais ça va nous rapporter un maximum d'argent, tout ça. » Et comme il tenait hein, les cordons de la bourse dans le groupe des disciples, il était particulièrement attentif à s'en mettre dans la poche. Et voyant que Jésus ne demandait jamais d'argent, il a décidé d'aller un peu plus loin. Il se dit, je vais le vendre aux autorités juives qui n'attendent que ça. De toute façon, il va s'en tirer facilement puisqu'il est le Fils de Dieu. Hein, il fait des miracles. Ce n'est pas lui qui va se laisser arrêter quand même. Et lorsque Jésus se laisse arrêter dans ce fameux jardin de Gethsémané, je pense que là, Judas, il a dû se dire, mais j'ai fait le mauvais choix. Et c'est pour ça qu'il est allé rendre cet argent et qu'il est allé se pendre, dit la Bible. Les mauvais choix. Servir Dieu, c'est le bon choix, je peux vous le dire. Quand Dieu nous appelle, c'est merveilleux de le servir. Mais on peut le servir aussi en ayant un travail séculier. Hein. On peut servir Dieu dans son église locale, heureusement. Et ça, c'est merveilleux d'avoir des chrétiens au service du Seigneur. On a vu les diacres. Et puis, sans avoir de titre, chacun est appelé à servir. Mais il y a un choix là, il y a un choix. Ou je viens à l'église pour ma chair, pour moi, c'est-à-dire moi je viens à l'église parce que ça me regonfle, et puis il y a des gens, il y a un réseau là, je peux trouver de l'aide à droite à gauche, et puis si j'ai un besoin, ils sont toujours là. Et donc vous venez uniquement pour votre intérêt, uniquement. On vient tous par intérêt quelque part, hein. C'est-à-dire on vient pour la joie d'être ensemble, pour la joie de connaître le Seigneur. Mais ceux qui viennent uniquement par intérêt font un certain choix. Et ils moissonneront ce qu'ils sèment. C'est-à-dire, finalement, ils n'auront rien. Ceux qui viennent en disant « je vais servir les autres », ils reçoivent. C'est le principe hein, inverse du monde. Jésus a dit « il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Nous, nous sommes hein, instruits à recevoir. Je veux recevoir, je veux qu'on me donne. Dès qu'on a un problème, on va se plaindre. On fait des manifestations, des grèves, on va voir l'État, on téléphone, l'administration. Je veux qu'on m'aide, je veux recevoir de l'aide, je veux recevoir des choses, des produits, des prix, des ceci, des cela. Et le chrétien, il dit non, moi je veux donner. Il dit, mais tu perds ta vie, là, tu perds ton temps, tu te donnes aux autres, et puis voilà, qu'est-ce que tu as en retour? Mais il a plus que celui qui veut recevoir. Mais il y a ce choix à faire. Un jour, vous êtes à l'intersection, alors je vais donner ou je veux recevoir? Sachant que si je donne, je vais recevoir finalement. Mais si je veux uniquement recevoir égoïstement, je n'aurai rien. Les premiers seront les derniers seront les premiers, a dit Jésus. Une autre parole de Jésus qui est très importante sur le choix, les priorités, c'est en Matthieu 6, vous connaissez ce verset. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste hein, vous sera donné par-dessus. » Cherchez premièrement, là il y a un choix à faire, une priorité, une décision. Qu'est-ce que je vais chercher premièrement dans ma vie? Qu'est-ce que je vais semer? Le royaume et la justice de Dieu ou les choses matérielles. Dans le contexte, hein, Jésus dit, ne soyez pas comme les païens qui cherchent toujours à savoir de quoi allons-nous nous vêtir, qu'est-ce qu'on va manger. Dieu va vous donner tout ça. Vous, ce que vous avez à faire, c'est chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors bien sûr, le parisien sceptique et rationaliste va dire, oui mais attends, ton salaire, tes courses, elles ne vont pas tomber dans ton panier toutes seules, hein, il faut aller les chercher. Ce n'est pas ce que Jésus a voulu dire. Il n'a pas dit qu'il faut rester à la maison dans la prière en attendant qu'on vous apporte à manger. Hein. Quand il dit « chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu », il veut dire « chercher les choses qui sont de l'ordre divin, dans les choses éternelles ». Il faut agir. Chercher, ce n'est pas simplement prier, c'est agir pour la justice de Dieu. Chercher la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? Et quand on fait ça, le Seigneur pourvoit pour le reste. C'est étonnant Quand on cherche à s'enrichir, on a des problèmes d'argent. Et quand on ne s'occupe pas trop de savoir si on aura assez, Dieu pourvoit. Et ça, c'est un principe de la Bible aussi. Quand on fait confiance à Dieu, il honore notre confiance. Quand on cherche à tout maîtriser soi-même, oh là là, il faut que je m'enrichisse, il faut que je gagne des pourcentages, je vais mettre à la bourse, vous finissez par perdre votre argent. Quand vous donnez aux autres par générosité, vous vous retrouvez à la fin avec de l'argent, vous dites, mais d'où ça sort, hein? Combien de cas nous pourrions, plusieurs d'entre nous, dire, hein, où on avait besoin d'une certaine somme, mais on ne l'avait pas parce qu'on avait dépensé notre argent pour aider quelqu'un ou pour un projet missionnaire, et on se retrouve avec un manque, un trou, et puis arrive un chèque en retard, un don, quelque chose, et hop, c'est comblé, et on vit par la foi. Ça, c'est un choix de vivre par la foi. Un autre choix aussi se trouve en Josué 24:15. Vous pouvez le prendre avec moi si vous avez votre Bible. Un verset très important. Livre de Josué, c'est après le Pentateuque, quasiment la fin. On va lire versets 14 et 15. Josué 24, 14 et 15. « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Et servez l'Éternel. » Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi, dit Josué, et ma maison, et ma famille, nous servirons l'Éternel. Vous avez remarqué cette détermination de Josué? Il parle au peuple, il est le conducteur du peuple, il dit, vous avez un choix, vous êtes à une intersection de votre vie là. Est-ce que vous allez continuer à servir les dieux païens ou l'Éternel, le vrai Dieu, le Dieu vivant? Choisissez qui vous voulez servir. Moi et ma famille, nous allons servir l'Éternel. Ça, c'est la parole aussi d'un père de famille. Le père de famille a la responsabilité de conduire sa famille dans les pas de l'Éternel, dans la volonté du Seigneur. C'est sa responsabilité prioritaire, on pourrait dire. Est-ce que nous avons fait ce choix? Ou est-ce que nous allons à l'église le dimanche et puis le reste du temps, on vit pour la chair, on sème pour la chair? Ne pensez pas que vous allez moissonner quoi que ce soit. Des fois, on prie, on dit « Seigneur, envoie un grand réveil. Seigneur, envoie des gens qui se convertissent, qui tombent. Et quand je témoigne, oh là là, il n'y a rien qui se passe, les gens. » Mais c'est peut-être parce que je n'ai pas semé avant. Je n'ai pas prié pour eux. Je n'ai pas été dans la parole de Dieu pour qu'au moment où je parle, ce soit la parole de Dieu qui leur parle. Alors après, je suis déçu, oh les gens ne veulent rien, mais peut-être parce que je ne transmets rien. Je ne ressemble pas à Christ. Je ne suis pas rempli de la parole de Dieu et donc tout ce que je dis, pff, ça tombe par terre. Je n'ai pas prié, intercédé, pleuré pour ces personnes. Alors quand je leur parle d'un air un peu détaché. Oui, vous savez, hein, il faut quand même croire. Hein, la Bible, c'est la vérité. Si vous ne repentez pas, vous pouvez aller à la perdition. Si vous dites ça comme ça, sur ce ton, les gens ils vont dire, mais d'où il sort, celui-là? J'étais frappé pour le mariage à Monaco, hein, du prince Albert, à quel point il était détaché de la cérémonie. C'était presque choquant. On aurait dit qu'il assistait au mariage d'un ami. Et vous savez, c'est quand même quelque chose, quand ça se remarque tout de suite, quelqu'un qui ne vit pas la chose, quelqu'un qui n'est pas touché profondément. Et j'espère que ça va bien se passer pour ce couple, parce qu'il n'avait pas l'air tout entier dans son mariage. Et bien, c'est la même chose avec les âmes éternelles, avec notre prochain que nous côtoyons. Si nous prenons les gens hein, pour des choses, des animaux, je ne sais pas, des objets, il n'y aura pas de fruits. Mais si nous semons dans la prière, si nous les aimons de l'amour de Dieu, lorsque nous allons parler avec eux, lorsqu'ils vont nous demander conseil, nos réponses vont aller dans le sens de l'amour de Dieu et pas juste dans des bons conseils. Hein. Ah ben c'est facile, hein, il faut faire ci, il faut faire ça. Hein. Oh, puis bon, bah oui, t'as des problèmes, et moi aussi, on a tous des problèmes. C'est pas comme ça qu'on console les personnes. Quand on est près de Dieu, on a la bonne réponse. Ma conclusion ce matin, c'est aussi pour ceux qui n'ont jamais choisi de suivre le Seigneur. Je vais lire ce verset dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 36. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Vous avez remarqué qu'il y a deux catégories de personnes dans ce verset, ces paroles de Jésus, ceux qui croient au Fils et ceux qui ne croient pas au Fils. Dans le livre de Deutéronome, Moïse avait dit: Choisis la vie afin que tu vives. Pourquoi choisirais-tu la mort? Et tout être humain, qu'il soit croyant ou pas, peu importe, peut être athée complètement, vous êtes devant un choix. Est-ce que tu veux choisir la vie éternelle avec Dieu ou la mort éternelle sans Dieu? Bien sûr, peu de gens admettent ce choix. Ils disent, mais non, il doit y avoir bien une troisième voie. Moi, c'est, je veux vivre sans Dieu et mourir comme ça, comme un chien. C'est-à-dire, après la mort, c'est fini. Oui, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parce que la Bible révèle que nous avons une âme éternelle et qu'après la mort, notre corps, oui, redevient poussière, mais notre âme continue de vivre. Et si nous ne nous sommes pas repentis de notre vivant, notre âme va comparaître en jugement devant Dieu. Tous nos péchés vont être étalés. Et notre condamnation sera certaine. Et Dieu a tout fait pour qu'on ne soit pas condamné. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Beaucoup de gens se demandent pourquoi Jésus est venu. Il est venu justement pour empêcher que nous soyons condamnés au jour du jugement dernier. Il a été condamné à notre place lorsqu'il est monté sur cette croix. Mais nous, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à croire au Fils. La Bible dit que ce n'est pas par des œuvres qu'on peut se sauver du jugement. Ce n'est pas en étant un bon chrétien, en faisant des prières, des pèlerinages, des cierges, tout ce que vous voulez. Non, tout ça ne peut pas gagner le ciel. La Bible dit que c'est un cadeau, la vie éternelle. Parce qu'on ne peut pas le mériter. Nous ne méritons pas la vie éternelle. Ça, c'est certain. Nous sommes pécheurs, dit la Bible. C'est-à-dire, nous avons offensé Dieu, nous avons trahi notre Dieu, notre Créateur, comme Adam et Ève. Mais nous pouvons croire au Fils parce que Christ, sur la croix, a tout payé. Quand il a crié, avant de rendre l'esprit, il a dit: Tout est accompli. Normalement, un crucifié ne pouvait pas crier, hein, il n'avait plus d'air. Et lui, il a crié d'une voix forte au point que le centurion qui était à ses pieds, il a dit: Assurément, cet homme devait être fils de Dieu. Et pourquoi il a crié: Tout est accompli? Ça voulait dire: Tout est payé. J'ai tout payé. Tout est fini. Ceux qui croient en moi désormais peuvent être sauvés éternellement, avoir la certitude de ce salut. Ce n'est pas que Jésus est venu nous aider à nous sauver. En disant, allez, bon, allez, moi je meurs sur la croix, et puis toi tu. Non. S'il pouvait nous aider à nous sauver, il ne serait pas mort sur la croix, je vais vous le dire. Il serait venu quelque temps, il aurait fait deux, trois miracles, il serait reparti. S'il a dû mourir sur cette croix, c'est parce que c'était le seul moyen de payer notre dette. Il fallait que le Messie meure pour l'humanité. Et maintenant, je relis ce verset. Maintenant, celui qui croit au Messie, qui croit en Jésus, crucifié pour lui, a la vie éternelle. Et j'aime bien, là, il dit, il a la vie éternelle. Ce n'est pas, il aura peut-être s'il persévère, non, il a la vie. La vie étant Jésus-Christ, si je crois en Christ, si je le prends pour sauveur, j'ai la vie éternelle, je suis sauvé. Mais si je ne crois pas au Fils, je ne verrai pas la vie et je reste sous la colère de Dieu. C'est terrible d'être sous la colère de Dieu parce que la colère de Dieu est infinie. Elle est sainte, elle est absolue. On ne peut pas échapper à la colère de Dieu, humainement parlant. Il n'y a qu'un seul moyen d'échapper à la colère de Dieu, c'est en se réfugiant en Jésus-Christ, parce qu'il est venu prendre l'impact. Vous savez, il y a beaucoup d'histoires de guerres, de soldats. Les plus touchantes, c'est lorsque un soldat prend une balle à la place de l'autre. Hein? Il se met devant et il prend la balle, il prend l'éclat d'obus et il meurt pour l'autre. Eh bien, Jésus, il a pris la balle qui nous était adressée. Il a sauté devant, il a dit « C'est moi qui meurs pour lui ». Et maintenant, nous, ce qui nous reste à faire en tant qu'être humain, c'est cette intersection-là. Je crois au Fils ou je ne crois pas au Fils. Il n'y a pas trois chemins, hein, il y a deux. Celui qui croit au Fils, celui qui ne croit pas au Fils. Et Dieu, le Créateur, nous appelle. Quel chemin vas-tu prendre? Quel choix vas-tu faire? Vas-tu choisir la vie? Bien sûr qu'on veut choisir la vie, mais la vie est avec Jésus-Christ. Est-ce qu'on veut choisir Jésus-Christ aussi? Tout cela est devant nous. Moi, j'ai fait ce choix il y a 25 ans et je n'ai pas regretté une seconde. Mais alors, je dis bien une seconde, littéralement. Il n'y a pas une seconde où je me suis dit « Ah oh non, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû choisir Christ. » Et pourtant, j'étais athée. Je vivais complètement dans l'égoïsme, l'orgueil le plus total, le plus insouciant. Mais quand j'ai compris qu'il y avait un Créateur, qu'il y avait un Dieu qui m'aimait, qu'il y avait une vie éternelle, j'ai dit « Mais je veux ça. » Je veux. Et j'étais prêt à suivre le Seigneur par la foi. Il m'a gracié gratuitement.